Fait qu'on va, on va prier avant de poursuivre où ce qu'on était rendu la dernière fois. Bien, Seigneur grand Dieu, on veut encore s'arrêter. Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Et on est les bénéficiaires de cette grâce. Seigneur Dieu, nous sommes des pécheurs graciés. On a eu la grâce d'être convaincus de notre péché, d'être convaincus de justice, puis de réaliser qu'en Jésus-Christ, notre dette a été payée à la croix, Seigneur, et on est maintenant appelés tes enfants. Nous avons été adoptés par toi, Seigneur, et c'est toute une bénédiction qu'on veut se rappeler chaque jour et qu'on veut qu'il fasse la différence dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre vision de notre vie, Seigneur. Et merci, puis ce matin, on prend du temps. Dans ta parole, on veut se rappeler que c'est ta parole inspirée, c'est ta volonté, c'est ce qui est arrivé, c'est la vraie histoire qui y est relatée. On veut te remercier parce qu'elle est venue jusqu'à nous. On te prie d'être édifié ce matin par ta parole. Amen. Donc, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on était un plus petit groupe la semaine dernière, on avait quitté le déluge. Puis, on était rendu au début du chapitre 9. Et je ne reviendrai pas, là, j'ai déjà fait une couple de résumés sur la fin du déluge. On était rendu au chapitre 9. Et j'ai terminé un petit peu avec ça, avec l'idée que maintenant, on avait Noé et sa famille qui sortaient dans un nouveau monde. Puis, je ne répéterai pas, mais le déluge a vraiment changé les choses à un point tel qu'on a même un verset qui appelle le monde d'avant le déluge l'ancien monde, dans 2 Pierre 2:5. Ça me fait penser, je n'ai pas envoyé les notes cette semaine, je vais vous envoyer les notes là, de la semaine dernière, puis de cette semaine. 2 Pierre 2:5 qui dit « Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Donc, même ici, Pierre qui appelle le monde l'ancien monde, les choses ont changé à ce point. Et on en a parlé énormément. Ce matin, on va voir d'autres choses qui ont changé au niveau du rapport des êtres humains avec les animaux. On avait commencé à parler de ça la semaine dernière, donc on va continuer là. Aussi du rapport des êtres humains entre eux. Dieu, on va voir que Dieu va permettre la possibilité de se gouverner. On va dans le début du chapitre 9. Et après ça, on va voir toute une citation de la part de l'Éternel. Il y a 17 versets dans le chapitre 9 qui sont une citation de Dieu qui parle à Noé. Et on va voir là-dedans une alliance que Dieu a contractée avec la race humaine. Si on peut se rendre plus loin, on va se rendre aussi avec un drôle d'événement à la fin du chapitre 9. N'as-tu que ça? C'est quoi qui se passe après le déluge une fois que Dieu a parlé à Noé puis il y a eu l'alliance avec avec l'arc-en-ciel? C'est quoi qui se passe la prochaine histoire après? Non, c'est un petit événement. Ouais, ben c'est un petit événement. C'est un peu weird. On a vu Noé, un homme qui marchait avec l'Éternel, puis là, on le voit un petit peu pas sur son moins bon jour après le déluge. Il a bu un peu trop de vin, si vous vous rappelez, hein, il a cultivé la vigne. Puis à un point tel qu'il s'est ramassé nu dans sa tente, il avait probablement bu un petit peu trop, beaucoup trop. Donc il y a une histoire avec ça aussi, puis c'est assez étrange de voir comment Noé va réagir aussi. Bien, on comprend pas trop en lisant rapidement pourquoi... J'ai tout le genre de nom, c'est Cham. Pourquoi qu'il lui est reproché certaines choses dans le texte là, quand il a trouvé son père, nu. Puis on va voir après que Noé va faire un genre de prophétie. On va voir ça si on se rend jusque-là. Donc, comme j'ai dit, chapitre 9, on va lire une couple de versets ensemble. Dans le fond, les 17 premiers versets, là, c'est littéralement une citation de la part de Dieu. On va mettre la dent de côté. Verset 1 du chapitre 9. Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol, et pour tous les poissons de la mer et sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Mais je vais lire aussi juste 18 à 29. Là. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et la raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans. Puis il mourut. Oui, tout à fait. Noé aura donc vécu 950 ans. Dans la liste des généalogies précédentes, on n'a pas grand personnage qui nous sont mentionnés qui ont vécu plus longtemps que lui. Il y en a deux, là, Mathusalem puis un autre. Oui, d'ailleurs, tant qu'à le mentionner, c'est clair qu'il y a eu des gaps, des portions qui nous manquent dans les généalogies qui suivent le déluge. Mais s'il n'y en avait pas eu, Noé serait décédé alors qu'Abraham avait 58 ans. C'est qu'on voit un petit peu quand même, tu vis assez longtemps. Nous, on est rendu à l'histoire d'Abraham, mais probablement que ça n'a pas arrivé parce qu'on a au moins une génération qui a été sautée minimum dans les généalogies, puis probablement plus. Mais quand tu sautes une génération, tu sautes plusieurs années. Tu peux sauter plusieurs centaines d'années à cette époque-là. C'est que ça se peut que ce soit pas qu'il n'ait pas vécu en même temps, mais juste pour vous donner une idée, quand tu vis longtemps, il y a de l'histoire qui continue à se passer autour de toi. Donc, on arrive au chapitre 9. Il y a des choses qui changent en sortant de l'arche. La relation que les êtres humains étaient supposés d'avoir avec les animaux, qu'Adam et Ève leur étaient donnés d'avoir avec les animaux, qui en était une d'intendance, où est-ce qu'ils pouvaient dominer sur les animaux, puis les dominer vraiment d'une façon pas négative, là, mais pour pouvoir utiliser les animaux pour leurs propres besoins, pour leur propre fonctionnement. Bien, cette relation-là a changé après le déluge. À ce moment-ci, il y a vraiment une question de terreur puis de crainte qui s'est établie entre les êtres humains puis les animaux. Les êtres humains craignent aussi les animaux, puis les animaux craignent les êtres humains. On l'a mentionné la dernière fois, c'est un petit détail, les animaux domesticables sont pas particulièrement mentionnés ici. Les animaux tels le bétail sont pas particulièrement mentionnés dans la liste d'animaux du chapitre 9. Il y a quand même certainement une crainte là, qui s'est établie avec ces animaux-là aussi, mais il y avait encore des animaux plus faciles pour l'être humain de domestiquer. Mais outre ces animaux-là, c'est vraiment ce qu'on constate aujourd'hui. Il y a vraiment ce serait difficile de concevoir Adam et Ève, pouvoir avoir des rapports avec les animaux qu'on voit aujourd'hui, des rapports de domination, dans le sens que ces animaux-là nous fuient, ont peur aujourd'hui, ça serait difficile de concevoir ça, mais les choses ont changé après le déluge. C'est pour ça qu'après le déluge, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est pas nécessairement ce qui était vécu par Adam et Ève et leurs descendants avant. On a parlé que ça a amené certainement aussi, ça a sûrement aidé à favoriser l'extinction de certaines espèces parce que les êtres humains ont certainement chassé extensivement certaines espèces qui leur nuisaient ou qui leur faisaient peur. On en a déjà parlé. Maintenant, une autre chose qui nous est mentionnée dans le texte au début, c'est que maintenant, au niveau de la nourriture aussi, ça implique un changement aussi dans la relation avec les animaux. Maintenant, c'est possible pour l'être humain, c'est autorisé de la part de Dieu de manger de la viande. Mais il spécifie clairement que tu ne dois pas manger la chair avec son sang. Tu dois vider l'animal de son sang avant d'en manger. Oui.
Les hommes étaient si pécheurs avant le déluge, ils n'avaient pas obéi Dieu, qu'ils avaient déjà mangé de la viande.
C'est possible. On pourrait certainement conclure qu'il y en a qui l'avaient fait. Là, je veux dire, on s'entend que la possibilité de tuer les animaux était là au niveau des sacrifices, au niveau des régimes sacrificiels avant le déluge. Puis si la violence, puis la violence et la corruption étaient rendues à un point tel avant le déluge, bon, ça serait étrange qu'il ne se soit pas permis de faire ça, là, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui devaient se faire déjà contre nature ou autre avant le déluge, fait que je peux facilement m'imaginer que oui. Mais en tout cas, certainement, c'était pas quelque chose de qui pouvait être aussi répandu toutefois. Ça restait un genre de tabou que tu cassais, tu sais, ou quelque chose de pas correct. T'sais. À ce point-ci, Dieu établit vraiment la possibilité de le manger, de manger des animaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut manger des animaux, mais on peut manger des animaux. Donc, pourquoi ça? C'est pas dit dans le texte. Pourquoi tout d'un coup, après le déluge, on a cette autorisation-là? Puis je pense que je vous ai laissé avec certaines pistes de réflexion. Là. Il y a peut-être une couple de raisons qu'on pourrait comprendre. Peut-être ce qui fait le plus de sens, c'est d'essayer de comprendre que l'environnement a changé après le déluge. Donc, vu que l'environnement a changé, peut-être que ça peut être à propos que notre diète aussi change. En tout cas, que notre diète puisse changer. C'est que certains ont suggéré qu'avec un nouvel environnement plus hostile, où il est plus difficile pour l'être humain de vivre, tout simplement au niveau climatique, là, je veux dire, t'es plus dans un environnement tempéré où là, faut vraiment que des fois tu luttes contre le froid ou tu luttes contre la difficulté d'obtenir de la nourriture. C'est peut-être plus aussi facile qu'avant. Donc, il y a tout un apport de protéines, un apport protéinique dans la viande qui pouvait valoir la peine de manger de la viande. Là, je suis pas un nutritionniste, je sais pas, là, tu sais, c'était plus vite de protéines en mangeant de la viande qu'en mangeant d'autres choses. Puis peut-être qu'il y a d'autres aliments plus protéiniques, mais en même temps, tu sais, ces autres aliments-là sont peut-être pas répandus, sont peut-être pas cultivés ou répandus partout sur la planète après le déluge. Donc, d'avoir accès à de la viande, en tout cas, c'est clair que t'es capable d'avoir accès à certaines protéines, c'est que ça peut être une raison. Une autre raison, certainement, qu'en donnant la possibilité à l'être humain de manger de la viande, ça creuse l'écart entre l'animal et l'être humain. T'sais, c'est encore plus clair qu'un animal, c'est pas un être humain. T'sais. Comprenez, si j'ai le droit de tuer cet animal-là et de m'en nourrir, ben c'est clair que devant Dieu, cet animal-là n'a pas la même valeur que je l'ai. T'sais. Puis c'est pas mal, c'est ça. Puis ça accentue cette différence-là, puis assez vite, j'ai même peut-être que ces idées-là étaient avant le déluge, mais assez vite, les idées évolutionnaires, là, évolutionnistes, en bout de ligne, ce que ça suggère, une idée évolutionniste, c'est qu'on n'est pas mieux que l'animal à côté de nous, on est juste chanceux aujourd'hui, en 2013, que ça soit notre gang à nous qui règne sur la planète, mais tu sais, là, 30 millions d'années, c'était peut-être les dinosaures qui régnaient, et puis peut-être dans 30 millions d'années, ça va être une autre sorte d'animal qui va évoluer, qui va développer une société, puis qui va régner, puis nous autres, on va peut-être être éteints ou on va être ceux qui, je sais pas trop, on va retourner la Terre à quatre pattes pour ce nouveau peuple-là qui va dominer sur la Terre. Mais ça rend les choses très relatives. Là. C'est comme si on est... T'sais, dans le fond, si tu veux être conséquent en étant évolutionniste, prends soin. Tu devrais prendre autant soin du reste de la planète que tu prends soin de tes pères, parce qu'on est juste par chance à ce point-ci établi. Là. Mais dans le fond, si tu as à cœur la baleine à côté, ben elle a à cœur autant que l'enfant qui crève de faim. Je sais que c'est pas ça dans les faits que les gens font, mais ultimement, il n'y a pas de valeur. Là, on n'a pas une valeur accrue. Ici, on le sait depuis le début de la Genèse que notre valeur vient du fait que Dieu nous a créés à son image. Et ici, ça renforce cette idée-là. Parce que les peuples, éventuellement, ils vont rejeter Dieu. Mais les descendants de Sem, Cham et Japhet, il y en a encore qui vont rejeter Dieu. Puis une des idées qui est apparue assez vite, c'est d'avoir des nouvelles idoles. Puis ils se font des idoles à même la création, à même des animaux, à même des éléments de la création. Puis assez vite, ces idées-là qu'on a évoluées, dans des peuples anciens, ces idées-là étaient là. Même s'il y avait de la religion, il y avait comme des idées là, qu'on venait d'ancêtres ou des trucs comme ça. Bon, c'était juste des pistes de réflexion pourquoi tout d'un coup on aurait le droit de manger de la viande. Une restriction toutefois, puis c'est intéressant dans le texte, Dieu dit clairement toutefois que tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Et dans le texte, dépendamment de vos versions, c'est dit vous ne mangerez pas de chair, c'est-à-dire la viande, avec sa vie. Littéralement, c'est-à-dire avec son sang. Et vraiment, dans l'Ancien Testament, on relit souvent le sang avec la vie. Quand on parle de la vie de quelqu'un, c'est la vie dans le sang. OK? Et j'ai un texte pour ça là, dans Lévitique 17, versets 11 et 12. Une des explications qu'il y a lorsque Dieu donne des lois sacrificielles, il donne des raisons pour certaines de ces lois. Et là, on arrive au verset 11 dans Lévitique 17, parlant des sacrifices par effusion de sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Il y a vraiment une corrélation ici entre la vie et le sang, et Dieu est en train de dire dans le texte ici, dans Lévitique, je veux que ce soit le sang de l'animal qui coule parce que c'est dans la vie est dans le sang de l'animal. Et c'est ça que ça prend pour que toi, ta vie à toi ou ton âme à toi, soit que son péché soit couverte pour un temps. Là. Tu sais, ça prend le sang d'un animal pour que ton sang à toi, si on veut, soit couvert pour un temps, ton péché soit couvert. C'est qu'il y a une importance dans le sang. Puis on sait qu'au niveau physiologique, OK, nous, de ce qu'on connaît du sang, on sait que le sang, ça remplit des fonctions physiologiques primaires. Là. C'est le sang qui amène tous les produits chimiques, là, excusez l'expression, produits chimiques, là, mais tout ce qu'on a de besoin, là, c'est le sang qui le transporte puis qui l'amène en provenance de l'air et de la nourriture, c'est le sang qui transporte puis qui amène tout ça à notre chair physique, qui permet de maintenir la conscience et tous les processus de notre cerveau. Là. C'est le sang qui amène toute cette nourriture-là ou ces produits-là de l'air et de la nourriture qu'on mange. Et lorsque le sang pourrait arrêter d'amener ça à notre cerveau, amener à nos organes, on ne fonctionnerait plus. Là, c'est qu'il y a vraiment l'idée que la vie est dans le sang, même au niveau biologique. Toutes ces opérations-là, le fait que le sang est amené à tous nos organes, dont notre cerveau, etc., toutes ces opérations-là sont appelées la vie ou sont appelées l'âme de la conscience, qui distingue la vie animale de la vie végétale. La vie végétale n'a pas ça, n'a pas ce sang-là qui amène tous les nutriments et qui permet de faire fonctionner le corps. On pourrait pas comparer avec ce que le sang fait, avec ce qui se passe dans un animal ou un être humain. Et c'est toute ça l'idée, quand je vous disais là, l'idée du nefesh dans Genèse 1, quand Dieu a créé le souffle de vie, il l'a créé chez les animaux, puis il l'a créé chez l'être humain, mais il l'a pas créé chez les végétaux. Puis il y a le mot nefesh dans l'hébreu. C'est qu'il y a quelque chose de sacré dans le nefesh, il y a quelque chose de sacré dans le sang. Dieu dans les Écritures va vraiment, dans l'Ancien Testament, lier le sang. C'est là que tu as l'âme ou la vie de la personne. Dieu dit, c'est pour ça que je veux que le sang coule de l'animal. Il faut que c'est ton péché est sérieux. Puis si tu veux que ton péché soit couvert, il faut que ce soit couvert par le sang d'un animal, pas juste par n'importe quoi. Et d'où l'importance que si tu peux maintenant manger de l'animal, mais je veux certainement pas que tu manges la vie de l'animal parce que ça servait déjà à l'expiation de tes péchés. Puis ça, c'est important que ça reste sacré puis ça reste spécial. C'est que sors le sang de l'animal avant de manger le reste qui n'était pas utilisé autrement ou qui était brûlé à l'époque, mais qui n'était pas utilisé. Là, tu as le droit de manger sa chair, sa viande. Mais tu retires le sang. C'est que là, prochaine question logique, qu'est-ce qu'on fait avec le boudin? Mais tant qu'à... En tout cas, j'ai pas fait une grosse étude là-dessus. Je peux juste dire ici, vraiment, l'intention, c'est de... Tu ne veux pas manger le sang parce qu'à l'époque, il y avait une intention pour le sang. Il y avait un but sacrificiel pour le sang. Avant le sacrifice de Christ. Si j'extrapole, là, ça aura fait une grosse étude. Aujourd'hui, on ne vit pas avec un régime sacrificiel. On n'a plus toute la question de l'importance de garder le sang de l'animal parce qu'on veut, qu'on veut faire des sacrifices d'expiation pour nos péchés. Christ, son sang a coulé une fois pour toutes. Et là, on pourra aussi enseigner sur le fait qu'il est important que le sang de Jésus aussi coule. Okay? C'est important que son sang coule. On pourrait aller dans Hébreux pour voir ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus ce lien-là avec le sang. J'oserais croire, je ne pense pas que pour tous ceux qui ont mangé du boudin ici, vous devez confesser quelque chose. Je ne crois pas à ce point-ci que je pourrais faire une corrélation. Je pense qu'il y a une intention dans le texte que je ne revois pas aujourd'hui. Mais là, j'extrapole. J'ai pas fait un... Mais je ne vois pas cette intention-là aujourd'hui. Mettons que vous mangez votre steak et un peu de sang encore dedans, vous n'êtes pas obligé d'avoir une semelle de bottes, ça soit correct. Hein? Mais ben oui, ouais, tu as le poisson. Puis ouais,
le poisson,
tu prends
au filet.
Oui, puis c'est ça. Ben, non, c'est ça. Il y a du sang un peu, là, mais tu te grattes un peu. Mais ça peut devenir compliqué. On pourrait se compliquer la vie et on ne partira pas un groupement. Oui.
Sur le sang, perçu qu'il vidait le sang de l'animal, parce que le sang, la lie dans le sang, après ça, dans l'âme, tout ça. Il disait juste que c'était par respect, genre. Tant qu'il y a du sang dans le corps, c'est possibilité que le corps vit encore, tu comprends?
Moi, je comprends.
Il faisait juste vider pour faire sûr que la vie et l'âme, dans le sang, il serait plus là. C'est pas dit qu'il va falloir manger le sang derrière. Une fois que tu as vidé le sang, l'âme est partie.
Non, c'est ça. Donc, le commentaire ici, pour ceux qui m'écoutent, parce qu'on me disait que je répète pas assez les questions pour ceux qui écoutent l'enregistrement. Donc, oui, il y avait la question du respect. On vidait le sang parce qu'on voulait respecter, s'assurer que la vie était complètement partie de l'animal. Tout ça est relié ensemble parce que ce sang... Là, ah, exactement, c'est sûr, c'est ça aussi.
Il y avait une surexploitation de la pêche, okay? Okay. Dans des autres pays. Puis ils coupaient les ailerons des requins.
Ouais.
À cause de cet aphrodisiaque.
Ouais.
Ils coupaient les ailerons, mais ils rejetaient le requin. Ouais. Puis d'ailerons après. Il y avait encore, mais ils ne pouvaient plus se diriger. Ils mouraient au fond des mers.
Ouais. Ça, c'est un exemple ici. On sort un peu du sujet, mais ça, c'est un exemple de mauvaise gérance, de mauvaise intendance. Juste parce qu'il y a un marché, surtout asiatique, où est-ce que c'est très prisé, la soupe à l'aileron de requin, puis paraît pour... J'ai vu des reportages, certains y ont goûté, puis c'est pas plus extraordinaire que ça, mais tu sais, à un moment donné, culturellement, tu prises des choses, tu donnes de la valeur à certaines choses, mais là, dans ce cas-là, il tue un animal pour 3-4 grammes dessus, le reste, il est lancé à l'eau, là. Mais bon, c'est que Marie. Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait le lien. Mireille dit que ça va à un point tel qu'aujourd'hui, il y a certaines sectes, dont les témoins de Jéhovah, qui ont gardé cette idée-là que l'âme est dans le sang. Donc, ils vont aller jusqu'à dire qu'on ne peut pas avoir de transfusion sanguine à cause de ça. C'est que, non, certainement ici, qu'on garde le contexte. Puis le contexte est assez clair. Dieu donne la raison pourquoi il faut que tu vides le sang. C'est parce que la vie est dans le sang. Puis parce que c'était une pratique déjà de sacrifier des animaux et de faire couler leur sang. On arrive au verset 5 du chapitre 9, et là, j'ai appelé ça l'établissement du gouvernement civil humain. Là, Dieu dit carrément, il dit, « Sachez-le, je vais redemander le sang de vos âmes. Je vais le redemander à tout animal, je vais le redemander l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Puis il dit après, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Dieu est en train de dire ici, « Écoutez les boys, Si quelqu'un vous fait mal, faites du mal, entretuez-vous, je vous donne la permission de vous entretuer. Ce n'est pas une permission ici d'avoir l'anarchie sur la planète. » Là. Et d'ailleurs, le mot « redemander » dans hébreu, c'est un mot juridique. C'est un mot qui a un caractère juridique. C'est comme si Dieu ici est en tant que juge en train de parler, puis il est en train de dire « je vais vous demander des comptes, je m'attends de vous à ce que vous gériez la situation. » Dans « redemander », il y a un juge qui donne, si on veut, qui donne un devoir juridique. Okay? Il y a vraiment ça. Puis ici, en réalité, ce que Dieu est en train de faire ici, c'est qu'il dit, écoutez, avant le déluge, Dieu n'avait même pas établi ça avant le déluge. Avant le déluge, il n'y avait pas cette permission-là de la part de Dieu de se gouverner nous-mêmes puis d'appliquer des lois qui viennent de la part de Dieu. Puis on le sait que particulièrement avant le déluge, ce qui était marqué, c'est une grande violence, il devait y avoir énormément de meurtres. Il y avait, tu sais, les gens qui étaient populaires à l'époque, là, c'était les gens qui étaient reconnus pour être des attaquants, des violents. Tu sais, ce sont les héros des temps anciens. Là. On avait vu le texte dans Genèse 6, mais ce sont les gens connus des temps anciens, c'était des gens qui étaient particulièrement violents. Ça devait être assez anarchique, puis les gens réglaient leur compte par eux-mêmes. On va voir les mecs dans la... Tu sais, on se rappelle de les mecs dans la descendance de Caïn. C'est quoi le speech à l'émec dans son petit poème? Là, ce qu'il dit, dans le fond, c'est dit « Moi, je pourrais me permettre de toucher à un enfant, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir venir moi me toucher à moi parce que mes fils vont me protéger, on est assez fort pour ça. » Mais il y a juste le fait qu'il suggère qu'il pourrait violenter ou tuer un plus petit que lui, il le suggère. T'sais, on voit la mentalité qui roulait autour. C'est que ça devait être assez anarchique puis assez... assez violent, là. Il devait avoir énormément de meurtres et de violence avant le déluge. Dieu, pour le bien de l'homme, de l'être humain, lui donne la possibilité à l'être humain de gouverner. C'est lui, en tant que gouverneur, en tant que juge, maintenant, il dit, je vais redemander. Alors, organisez-vous que si le sang d'un homme est versé, ben il va falloir que justice soit faite. Puis ce qu'il est en train de dire ici, c'est que son sang va être versé. C'est carrément, Dieu est en train d'établir la peine de mort. Mais ça se fera pas juste de même. Le gars dans le coin, « Ah oui, je pense que je t'ai vu tuer quelqu'un, puis tu sais, je te tue avec. » C'est clair que ça l'implique toute la justice derrière ça, mais l'idée du texte, c'est vraiment savoir que de réaliser que Dieu donne cette légitimité-là à ce qu'on puisse gouverner. Puis on peut facilement conclure que ça va plus loin que ça, parce qu'il y a tu ne veux pas juste gérer le meurtre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui mènent au meurtre. Il y a beaucoup de conditions de vie qui vont mener au meurtre. C'est que je veux dire, si c'est clair qu'il y a une permission de gérer plus que ça, de gouverner, d'avoir un gouvernement civil plus complet pour éviter qu'il y ait des situations qui mènent au meurtre. Parce que c'est clair que c'est pas, tu ne tues pas quelqu'un de même out of the blue. Là. Tu tues quelqu'un parce qu'il y a des situations qui t'amènent à ça. C'est que si Dieu est en train vraiment de donner cet incentive, on dit en anglais, là, est en train de permettre l'établissement du gouvernement civil. C'est intéressant parce que par la suite, dans les Écritures, dans l'histoire, on voit les gens, on voit le gouvernement qui est installé, on voit le principe du gouvernement. Mais on voit que ça n'arrive pas de nulle part, c'est Dieu qui l'a installé. Puis jusqu'à aujourd'hui, quand Dieu dit dans le Nouveau Testament qu'on doit respecter les autorités, qu'on doit respecter le gouvernement, puis il y a vraiment l'idée que Dieu l'a mis en place. Il y a vraiment, c'est la même idée ici. Dieu l'a mis en place, ce principe-là de gouvernement, même si c'est un pécheur qui te gouverne, parce qu'on est tous pécheurs, puis même si tu n'es pas d'accord à tout point avec ce qu'il dit, le principe de la gouvernance, le principe du gouvernement vient de Dieu. Puis on a l'origine ici, puis Paul l'utilise ou Pierre dans le Nouveau Testament, puis il rappelle que vu que c'est Dieu qui l'a mis en place, tu dois obéissance. À moins que le gouvernement te demande de désobéir à une loi de Dieu, là, c'est Dieu qui prime. Autrement, je veux dire, s'il a décidé de mettre la limite à 100, puis tu changes de pays, c'est à 80, je veux dire, so what? Là, je veux dire, le point, c'est pas le 80 ou le 100, autant que Dieu a établi le gouvernement, et nous devons se soumettre aux autorités. Et ça remonte jusqu'à Genèse 9, l'origine de tout ça. Maintenant, la raison pourquoi c'est important, Dieu va même jusqu'à dire dans ce texte-là qu'il va redemander le sang à l'animal. C'est que même un animal allait tuer un être humain, puis c'était important que l'animal subisse la peine de mort. C'était vraiment ça ici. C'est que même dans l'établissement du gouvernement, je sais pas trop, tu avais un lion qui a sorti ton chemin puis avait ramassé mon oncle Georges dans la tribu, ben il fallait retrouver le lion. Puis, je sais pas comment il le tuait, mais il fallait que son sang soit redemandé. Pis la même chose si un homme tue un autre homme, mais son sang de cet homme-là devait être demandé. Puis encore toute l'idée de enlever la vie d'un homme qui est dans son sang, c'est sacré. Ben pour qu'il y ait justice soit faite, c'est pas une vengeance ici, c'est pas encore une permission pour la vengeance. C'est vraiment quelque chose de Dieu est en train de permettre quelque chose, un établissement de gouvernement structuré. Bien, son sang va couler aussi à cet homme-là. Et la raison dans le texte, elle est très simple. La raison, elle est... c'est quoi la raison qu'il donne? Par l'homme, son sang sera versé. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Parce que l'homme, l'être humain, l'homme et la femme ont une valeur aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas des animaux. Ils sont faits à l'image de Dieu. Et à cause de ça, il y a un respect pour la vie. un respect à un point tel que c'est la vie de l'offenseur qui va être demandée s'il enlève la vie de l'offensé, dans le fond, de la victime. Maintenant, on s'enlignera pas sur le sujet de la peine de mort. Dieu, c'est clair qu'à l'époque, Dieu est l'initiateur, il a permis la peine de mort. À savoir si aujourd'hui, il faudrait être pour la peine de mort ou non, peu importe. Une chose que je suis prêt à dire, je suis pas prêt à dire qu'à cause que la peine de mort est établie dans un gouvernement quelconque, moi, personnellement, je suis pas prêt à dire que je devrais m'y opposer. Je vois pas le problème à ce que ça soit établi juste à cause de ça. Je dis pas qu'il faut que je travaille à ce que la peine de mort soit établie partout où je passe, où j'habite, là. Mais si ça donne que la peine de mort est quelque part, j'ai de la difficulté, moi, à avoir un problème avec ça. C'est sous-entendu ici que pour que ça soit une justice, il faut certainement qu'il y ait un système qui permet que ça soit fait d'une façon juste. On s'entend. Puis si on regarde, si on va un peu plus loin dans la loi mosaïque, on voit que Dieu a établi énormément de détails dans l'application de la loi pour s'assurer que la justice était justement bien menée, qu'il n'y avait pas d'erreur. On pourrait tourner dans des textes de Nombre, de Lévitique, etc. Autant même dans l'application de la peine de mort dans le peuple d'Israël. Et le point ici à retenir, peu importe pour aujourd'hui, le point c'est que certainement le principe de la peine de mort est pas mal en soi parce qu'à un moment donné Dieu l'a autorisé. Ok, c'est que c'est, au moins ça je veux dire. Bon, après Christ, les choses ont changé sous la Nouvelle Alliance, peu importe. J'enseigne sur la Genèse, je veux pas parler de ces choses-là, mais le point c'est que certainement que la peine de mort en soi c'est pas mal si Dieu l'a instauré à l'époque. Y a-t-il des questions jusque-là dans le texte? Dans Romains, ça se peut, il faudrait me sortir le verset, si vous avez le verset, vous me le sortirez, j'ai pas... C'est que ça ici, j'ai dit beaucoup sur un court verset, ok, mais il faut vraiment comprendre qu'ici, j'ai sorti ça parce qu'il y a vraiment les thèmes redemandés, c'est vraiment les thèmes à caractère juridique, on voit vraiment ce que Dieu, son intention ici, c'est que clairement Dieu n'est pas en train de promouvoir la vengeance, juste par les termes utilisés dans l'hébreu. Quand il dit à l'homme qui est son frère, là, que ça va être redemandé à l'homme qui est son frère, il est en train de dire, dans le fond, qu'on est tous responsables en tant qu'êtres humains. À l'époque, en tout cas, tous les êtres humains, qui étaient juste 8, étaient responsables à ce que ça, à participer à la gouvernance, à ce que ce gouvernement-là puisse bien fonctionner. C'était comme une responsabilité, je le demanderai à l'homme qui est son frère, c'est une responsabilité. Je pense que les femmes pouvaient aussi s'entretuer à l'époque, ils disent hommes, là, mais... Probablement, c'est inclusif. Je pense pas que c'est un privilège qui était réservé juste aux hommes. Pas un privilège, mais un péché. Voilà, les femmes, c'est ça. Les hommes tuent, mais c'est les femmes qui font la justice. Voilà. Tout à fait. C'est ma position personnelle, là, mais c'est ça. Mais l'idée ici, c'est de reconnaître que l'origine du gouvernement est encore en Dieu. Tu sais, on a vu la dernière fois, qu'en sortant du déluge, que l'origine du principe d'uniformité dans le monde, où ce que là, aujourd'hui, on regarde autour de nous, tout est uniforme, tout avance avec des taux de croissance normales, puis bon, tout se succède, les successions de jour et de la nuit, les saisons, les semailles et la moisson, tout ça, mais on voit que ça, c'est encore des principes que Dieu établit après le déluge. Dieu, après le déluge, a décidé qu'il n'interviendrait plus de façon universelle jusqu'au retour de son Fils, puis les choses avancent. Si je veux, la Terre continue à tourner sur elle-même, puis elle tourne autour du Soleil, puis tout ça influence tout le cycle hydrologique, puis la façon que la planète se comporte. Puis c'est ça que j'avais fait le commentaire la dernière fois. La vraie science, la vraie réflexion, la vraie observation se fait sur les phénomènes présents. Pas sur le passé puis sur le futur, parce qu'on n'est pas dans le futur puis on n'était pas là dans le passé. À moins que Dieu ou qu'un témoin nous dise ce qui se passait, on n'était pas là. Alors, faire de la science sur le passé, c'est pas de la vraie science. La vraie science, c'est que je vois, je constate, Dieu m'a donné une intelligence pour voir autour de moi, pour constater les principes qui fonctionnent autour de moi, les lois naturelles. Je les étudie, puis je fais des constats, puis je l'applique en technologie ou je développe des explications. Le problème, quand on voit dans le passé, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis c'est ça, l'être humain aujourd'hui qui oublie volontairement la création et le déluge, ben c'est sûr que ces théories sur le passé, c'est pas de la vraie science. Dans le fond, il n'était pas là. C'est qu'il peut bien dire ce qu'il veut, il va développer. Il faut que ça s'appelle une théorie, tu n'étais pas là. C'est que peut-être que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Tu sais. C'est qu'en tout cas, même cette semaine, ceux qui avaient lu le journal, à un moment donné, cette semaine, il y avait une photo, il y a un super télescope de fou là, qu'ils ont fait, je ne sais plus c'est quoi son nom, qui était capable de reproduire une image qui daterait de 38 milliards d'années. C'est basé sur le voyage de la lumière jusqu'au télescope. Il y a quelque chose dans l'astrophysique là-dedans. Parce que là, on a comme une image peu après le Big Bang. Là, c'est tout des petits points, dans le fond, cette image-là. Puis l'astrophysicien dit, il y a des gens qui donneraient leur enfant là, pour avoir cette photo-là, en parlant des astrophysiciens qui tripent sur leur dent. Parce que c'est comme la photo, ça, c'est... Voilà, c'est... Mais je veux dire... Puis là, ils nous présentent ça dans les journaux, puis là, t'as l'impression que... Ah ben ça, la Bible n'est pas vraie, je me suis trompé. Je veux dire, il y a tellement de présuppositions derrière cette photo. Mais c'est pas de même qu'ils l'écrivent dans le texte. C'est vraiment le feeling. Là. Écoute, c'est pas une photo. C'est une photo pas du présent. Il y a plein de présupposés à travers la technologie du télescope, à travers comment que la lumière voyage, à travers qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pour arriver à une gang de petits points et assumer que c'est probablement ça, là, 38 milliards d'années. Mais je veux dire, c'est juste le point, c'est que c'est présenté comme de la vraie science. C'est ça mon point, c'est que c'est présenté comme de la vraie science. La photo, c'est pratiquement la même... C'est aussi sérieux que si tu avais pris la photo de ton chien puis que c'est, ton chien existe. Là, mais oui, mais avez-vous trouvé votre verset?
Oui, c'était... Romains 13, qui dit de porter le fait que... Romains. De l'impôt, donc la mort...
Et tout ce qui fait que juste. Mais c'est Romains 13, vous dites? Sans faire une discussion, je veux juste quand même prendre le verset. Je trouve ça intéressant. Là, vous dites. Romains 13, et quel verset?
À partir du premier.
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Je ne dis pas clairement qu'il y a une référence à Genèse 9 ici, mais certainement qu'on peut en 4. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée. Étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'à l'époque, en faisant référence à l'épée, c'est clair qu'à l'époque, sous l'Empire romain, l'épée était utilisée. Là. Ça, c'est clair. C'est que il n'est pas en train de dire de s'opposer à l'épée. Là. Il est en train de dire de se soumettre. Oui. À la place de l'épée. Mais c'est clair que sous l'Empire romain, la peine de mort était fonctionnelle, vous comprenez? C'est que le croyant, sous l'Empire romain, il dit, mais t'as pas à craindre dans le fond, t'as pas à craindre, parce que le gouvernement est mis là par Dieu. Si tu fais le gouvernement est là pour juger le mal. Donc, si tu fais le bien, tu n'auras pas à craindre le gouvernement. Bon, là, on s'entend que les gouvernements peuvent être assez corrompus pour arriver à un point où ce qu'ils t'exigent de faire le mal, ben là, c'est une autre chose, OK? Là, tu vas obéir à la loi de Dieu. On comprend ça. Oui, mais... Oui, là, il y a ça, il y a tout d'autres... On embarque dans d'autres sujets, mais oui. Le point, c'est surtout de réaliser que ça... Moi, je trouve intéressant, c'est de réaliser que quand Paul parle comme ça dans Romains, lui, il avait aussi Genèse 9. Il fait certainement... C'est certainement dans sa doctrine, dans son enseignement. Et puis, on arrive au verset 7, dans Genèse 9, verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez. Et le mot multiplier, je crois ici, là, je pense que c'est le mot multiplier ou répander. C'est vraiment l'idée de fourmiller encore, de fourmiller sur la terre, de devenir comme, tu sais, de devenir vraiment abondant là, sur la terre. C'est comme si, parce qu'on repart à zéro, puis Dieu, dans son commandement, il dit vraiment à Noé, je m'attends à ce que la machine, à fond la caisse. Là, faut... Bon, le point, c'est qu'en 4000 ans, parce que là, en 4000 ans, puis ça, j'ai les données, c'est les données que j'ai, là, en 4000 ans, plus ou moins, s'il n'y a pas eu de gap, la population aurait passé de 8 personnes à 4 milliards. 4 milliards, c'est là, on est rendu à combien de milliards sur la planète? Là? 6, bon. 4 milliards, c'est peut-être parce que le livre que j'ai pris comme info, peut-être que ça datait des années 70, je ne sais pas, mais c'est exponentiel. Hein. Plus ça avance, plus ça monte vite. Là. Vous savez, la croissance de la population, c'est comme ça, puis à un moment donné, ça monte comme ça. C'est clair, actuellement, quand tu passes un 10 ans, normalement, À moins que le monde arrête de faire des enfants dans certaines sociétés. Mais encore là, aujourd'hui, je pense qu'overall, si on met la planète au complet, je veux dire, la reproduction, c'est pas... On n'est pas en train de diminuer le nombre, au contraire. Même si en Amérique du Nord, c'est un peu assez différent qu'ailleurs. Là. Donc, en tout cas, ils ont obéi. Je parle pas nécessairement de Noé, là, on parle de ses trois fils-là. Ouais. Pas nécessairement, parce que je pense d'ailleurs probablement qu'il n'aurait pas eu d'autres enfants. Il l'aurait mentionné. Là, ça serait, ben, whatever. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ça dit qu'il a vécu 350 ans après. L'autre affaire que j'avais jamais mentionné, il est quelle heure en passant là, avant que je m'embarque dans
-10.
L'autre affaire que j'avais pas mentionné l'autre fois, c'est parce que éventuellement on va y venir là, mais ces trois fils de Noé sont probablement nés après qu'il ait 500 ans. Ok, puis ça dit dans le texte carrément lorsque Noé a eu 500 ans, il a engendré trois fils. Ça veut pas dire que c'est des triplets. Ok, c'est vraiment l'idée quand tu engendres, il n'y a pas nécessairement une question de si l'idée, c'est que de lui est sorti ces trois fils-là. Pas nécessairement, il n'y a pas eu nécessairement des triplés. Ça a pu se passer dans les 75 prochaines années. D'ailleurs, probablement, ces trois fils-là sont nés après que Dieu a annoncé ce qu'il allait faire par rapport au déluge, parce qu'il y a eu 100 ans pour bâtir l'arche, à peu près 100-120 ans. Là. 120 entre le moment où Dieu a décrété qu'il ne contestera plus toujours avec l'homme. Puis on sait que Noé avait 500 ans lorsqu'il a engendré ses fils, puis à l'an 600 de la vie de Noé, le déluge est arrivé. C'est qu'entre le moment où il a engendré son premier fils, puis le déluge, bien, ses fils étaient rendus des hommes là, quand ils sont rentrés dans l'arche. Et probablement qu'ils sont tous nés, les trois, entre l'an 500 de Noé puis l'an 575 de sa vie, OK? On leur donnait au moins 25 ans pour avoir 25 ans quand ils rentrent dans l'arche, puis être capable, bien, avoir une femme, puis être capable de faire des enfants en sortant de l'arche. OK, puis c'est ça l'idée ici. Là. C'était pas des petits-enfants, ils étaient mariés, les gars. C'est que, dans le fond, j'avais juste pas réalisé que même dans le 100 ans où ce que Noé, 100, 120 ans, où ce qu'il a fait, qu'il a construit l'arche, il n'y a pas eu de l'aide nécessairement ben du monde pendant un bout. OK, bon, c'est sûr, quand tu as 5 ans, peut-être qu'il commençait à peinturer puis mettre du bitume sous l'arche, là, sur le bois de gopher, là. Ben, j'imagine, c'est merde. Mais ces enfants-là, ces trois fils-là ont été élevés dans un contexte où ce Noé était en train d'obéir à Dieu puis de construire un arche, construire un bateau, ce qui ne s'était jamais fait, en prévision de la pluie qui ne s'était jamais vue, qui était supposée venir remplir la terre. C'est encore plus absurde. Ils ont vu la foi de leur père en action, probablement de leur mère aussi. Et donc, ils ont été élevés là-dedans durant ces 75 ans-là, 100 ans-là. J'avais juste, c'est que je veux dire, d'autant plus pour moi, c'est d'autant plus édifiant de penser à la foi de Noé dans ce contexte-là. Sa foi a eu un impact dans le fond sur ses enfants qui grandissaient, ces trois-là. Puis il y a certainement eu d'autres enfants avant ces 500 ans qui ont délaissé, là, qui invoquaient pas le nom d'Éternel. Mais ces trois-là ont été influencés par sa foi. Mais je veux dire, il y avait une foi qui se manifestait assez concrètement jour par jour. C'était quelque chose. Vous comprenez? L'idée, c'est qu'il était tellement en opposition à sa société que tu pouvais pas ne pas savoir pourquoi papa il fait. Qu'est-ce que papa il fait de ces journées? Mais papa, il obéit à Dieu. Je veux dire, il construit un arche. Là. Je veux dire, puis il a construit parce que Dieu a dit que dans un moment donné qu'il allait envoyer un déluge. Il y a toute une foi là qui a eu un impact sur ses fils. Ses fils sont certainement. On va voir, là, on va y arriver. On a certainement été influencé positivement. On voit quand même qu'un de ses fils, Cham, on va le voir, Cham, il y a de quoi qui n'était pas tout à fait réglé dans le cœur de Cham. On va le voir lorsqu'il va dans l'histoire avec son père. D'ailleurs, j'en parle tout de suite. Ça ne veut pas dire que Cham n'a pas marché avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'était juste un moment où, bon. Mais il y a quelque chose qui était révélé dans le cœur de Cham dans cette histoire-là. Puis parlons-en tout de suite parce que ça a l'air bizarre. On lit l'histoire, tout donc. C'est quoi le problème, là? Je veux dire, il a trouvé son père nu. Je veux dire, c'est pas de sa faute à lui. S'il arrive d'entendre son père, il est nu parce qu'il est sous. Je veux dire, là, il s'en va dire ça à ses deux frères. Puis là, ses deux frères, eux autres, ils réagissent drôlement à ça. Ils rentrent, ils font attention, ils cachent la nudité de leur père. Puis après ça, Noé, il se réveille. Puis Noé, c'est pas gentil qu'est-ce qu'il a dit à propos de Cham et sa descendance. C'est, dans sa prophétie, il y avait quelque chose de négatif à propos de Cham. Je pense qu'on comprend plus l'idée quand on a les mots de l'original. C'est souvent ça qui nous manque quand on lit. Mais il y a deux mots qui sont bien importants dans le texte, OK, de cette histoire-là. Fait que là, j'ai sauté l'alliance de l'arc-en-ciel, on y reviendra, là. Mais dans l'histoire, Cham vit le mot, il vit la nudité de son père. OK? Le verbe ici, vit, vivre, et la raconta au dehors à ses deux frères. Il vit, excusez-moi, le mot voir. Voir, il y a vraiment, dans l'original, dans l'hébreu, il y a vraiment l'idée qu'il y a. Il a regardé fixement. Là, il y a quelque chose. Son regard n'était pas juste, j'aperçois la nudité puis je suis parti. Okay? Puis après, quand il arrive puis qu'il raconte l'histoire à ses deux frères, okay? Dans l'idée du raconter à ses frères, il y avait littéralement dans le mot ici, il y avait une idée où est-ce que il y avait une forme de. Je ne veux pas dire moquerie dans le fond, une forme où il y avait un manque de respect envers son père. Il y avait certainement un manque de respect, une forme de mépris envers son père. Puis dans la réaction de ses frères, c'est clair aussi que dans son racontage, ce n'était pas un racontage. Les frères, passant, là, amenez-vous un manteau parce que là, j'ai spoté le paille, il est tout nu. Faisons de quoi, là? C'était vraiment, il venait rapporter à ses frères d'une façon un peu méprisante ce qu'il venait de voir. Okay? Puis il avait vu juste pas remarquer. Donc, parce que c'est clair qu'il y a quelque chose de pas correct que Cham a fait. Parce que ses frères ont réagi d'une façon, parce qu'ils sont venus régler un problème. Ils ont agi différemment. Puis Noé, après, a été mis au courant par ses deux autres fils, ses plus vieux. Et s'est mis au courant de ce qui s'est passé quand il était sous. Parce que lui, sa réaction à Noé vient de ce qu'il a appris de la situation. C'est que certainement que Cham n'est pas allé voir ses deux frères avec une super bonne attitude. OK? Et là, après, ce que je vais dire du reste, le reste, c'est de l'extrapolation, parce qu'on ne sait pas exactement c'était quoi la mauvaise attitude, mais on peut facilement deviner quand même. Mais imaginez-vous, mettez-vous à la place de Cham ou de ses autres fils, ils ont connu leur père, un homme qui marchait par la foi. Ils ont connu avant le déluge, je veux dire, ça a dû être un modèle de foi extraordinaire, leur père. C'est un homme qui était rigide ou non, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait... C'est sûr que dans le contexte que Noé a vécu avant le déluge, ça devait être quelque chose, OK? Ça devait être quelque chose parce que tu avais quand même la société tout corrompue autour. Certainement, quelque part ici, le mépris que Cham a pourrait facilement être relié avec le fait qu'il dit « Hey, pal, je viens de te pogner. Je viens de te pogner comme un pécheur. Là. Je viens de te pogner dans ton péché, tu sais. » Tu sais, vous savez ce que ça. Quand ton cœur à toi est sale, quand ton cœur à toi est hypocrite, tu vois vite le péché chez les autres. Il y a comme une fierté à vouloir peser sur le piton et dire, hey, regarde, t'es pas mieux, mon toi. T'sais. Mais t'as pas nécessairement compris que la personne, son but, c'était peut-être pas de se montrer comme une meilleure personne à toi, mais toi, tu le recevais comme ça parce que ton cœur est sale, puis t'es rebelle face à la situation de ton cœur. Puis là, tu constates ton père dans une situation ce qui n'est pas à son avantage, puis le péché l'a amené, son excès l'a amené dans cette situation-là, puis ton cœur est révélé quand tu sors dehors aller voir tes frères, et tu devrais voir Pelle, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je sais pas, une attitude méprisante, tu sais. Et je crois que ça c'est clair qu'il y avait une mauvaise attitude, puis c'est assez clair que ça devrait être autour de ça, tu sais. C'est pas genre, je pense pas qu'il y avait rien de sexuel dans la discussion, là, son père tout nu, je pense pas que ça a vraiment de sens dans le texte. Puis je pense pas que c'était aussi, venez voir, on va aller voir papa tout nu, c'est drôle. Peut-être, j'aurais plus tendance à penser, de par la sévérité de ce que Noé a dit dans sa prophétie, que c'était plus que ça. Il y avait un mépris, il y avait quelque chose qui mijotait dans le cœur de Cham, puis ça l'a sorti, là. Puis on s'entend que... Il prend même dans le texte d'Abtan de mentionner qu'il est le père de Canaan, c'est un de ses fils à Cham. Puis on sait que les Canaanites, ont été des ennemis du peuple d'Israël. Ils ont dû être détruits, ils ont aidé des opposants du peuple d'Israël quand il est venu conquérir la terre promise. C'est qu'il ne faut pas oublier que Moïse est en train d'éditer ce texte-là, probablement de Genèse 9, puis il fait cette petite note-là en même temps qu'il était le père de Canaan. C'est que, parce que c'est clair que la planète s'est recorrompue assez vite, OK? C'est que c'était trois pécheurs, ses fils aussi, là, mais on a un exemple d'un fils déjà qui avait une disposition de cœur pas nette.
Quand il a pris trop de vin, des fois, il a pris durant le jour, puis ça l'a amené à s'endormir.
Bien, probablement.
C'était vraiment...
C'est sûr que c'est fini. Non, c'est ça. Mais s'il a fini dévêtu, là, probablement quelque part, c'est qu'il avait passé le... Puis, tu sais, il est trop chaud, puis il se dévêt, puis il est plus conscient de ce qu'il a fait, mais il est dans sa tente, puis il pense être seul, puis là, il se fait... Bon. Mais son fils a pu constater l'excès de vin. C'est ça le point. Il a constaté que son père n'était plus en contrôle lui-même pour qu'il soit comme ça. Là. En tout cas, on se laisse là-dessus.